Pose ta tête.
Pose ta tête, l'émission qui laisse passer la lumière.
La lumière.
Pose ta tête, c'est l'émission qui laisse passer la lumière.
Qui laisse passer la lumière.
Pose ta tête.
Pose ta tête, c'est l'émission qui laisse passer la lumière.
Et bonjour à tous, vous êtes bien sur Studio Zef dans Pose ta tête saison 2. Alors le mois dernier, on s'est retrouvé sur un plateau spécial en live pour les semaines d'information sur la santé mentale. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver cette émission et toute la saison précédente en podcast sur le site de Studio Zef. Là, on a réintégré le GEM, il fait un petit peu plus chaud. On va parler d'un sujet qui touche pas mal de monde, la bipolarité. J'ai cherché quelques chiffres sur le site de l'HAS, la Haute Autorité de Santé. En France, la prévalence du trouble bipolaire est estimée autour de 1% à 2,5% dans les études de population générale. Dans la population générale, pardon. Cette prévalence est très certainement largement sous-évaluée.
Le trouble bipolaire concerne aussi bien les hommes que les femmes, quelle que soit leur classe sociale et leur lieu de résidence. Le trouble bipolaire apparaît chez l'adulte jeune avec un âge de début entre 17 et 40 ans. De manière plus précise, l'âge de début moyen est de 18 ans pour le trouble bipolaire 1, 20 ans pour le trouble bipolaire 2. Pour le dépistage, la population considérée comme étant à risque a donc de 15 à 25 ans. On va pas mal parler de ces troubles et on vous mettra des liens vers des sites qui peuvent vous aider à comprendre et à trouver de l'aide. Mais d'abord, on reprend nos petites rubriques que vous adorez et ça commence avec notre féfé national. Vas-y Félix!
Qu'est-ce qu'on bouge?
Bonjour à tous. Ce mois-ci, je viens vous parler théâtre avec un spectacle de l'Hectare Vendôme. Ce spectacle nommé Bonjour aura lieu le 15 novembre 2025 à la salle polyvalente rue du Maréchal Rochambeau à Thoré-la-Rochette. C'est un spectacle tout public qui, d'un simple bonjour, vous fait basculer d'une incompréhension entre eux vers une ribambelle d'animaux qui semblent sortir de leur bouche, comme un magicien les ferait apparaître d'un chapeau. Ils inventent un monde et réinventent un langage. Tout est dans la parole exprimée. Les mots se déforment, se reforment avec les sonorités. Le texte devient musique avant d'être sens, produisant douceur et plaisir de jouer ensemble. Et une fois à la porte des jeux des mots et des quiproquos ouverts, vous entrez dans un long monde d'inventions infinies. Librement inspiré d'une des rares pièces écrites par Claude Ponty, ce spectacle est drôle et fantaisiste. Tout public dès 4 ans, la durée de ce spectacle est de 25 minutes. Vous pouvez retrouver les informations sur le site de l'hectare.fr avec les nombreux spectacles proposés.
Merci Félix.
Et on enchaîne avec la rubrique Livre de Sophie. Je crois que tu as justement lu sur le sujet de la bipolarité. Vas-y Sophie.
Les bonheurs de Sophie.
Les bonheurs de Sophie.
Hello, hello. Alors pour cette émission, je vais vous présenter deux ouvrages en lien avec la santé mentale à tous les âges. Le premier livre s'intitule « Un papillon sur le bitume » de Sophie Carquin aux éditions de l'Observatoire. Sophie Carquin est romancière et journaliste psychosociété et elle raconte et décrit son expérience en immersion dans un hôpital psy pour adolescents. Cet établissement s'appelle la Maison de Solène, l'unité pour ados de l'hôpital Cochin à Paris. Elle fait la connaissance d'ados en mal de vivre où anorexie et boulimie sont les principales maladies. Les patients souffrent, ont du mal à remonter la pente de cette spirale infernale du lien avec la nourriture. Nous essayons de comprendre, grâce à ce livre et aux témoignages parfois déroutants, la vie de ces enfants sans repères, perturbés et complètement paumés dans notre société. La santé mentale concerne aussi les plus jeunes. Toutes les personnes de cet hôpital, soignants ou soignées, ont accepté de parler pour que les plus démunis sache qu'il existe des établissements spécialisés pour ces pathologies parfois graves. Sophie Carquin est la première à être entrée en immersion dans la maison de Solène. Ce livre m'a fait connaître plus profondément le mal-être de nos ados. Je vous le recommande pour avoir plus d'informations à ce sujet. Mon second livre parle du même sujet que nous abordons aujourd'hui sur la santé mentale, la bipolarité. Ce témoignage s'appelle « Intérieure nuit » aux éditions Les Arènes et le narrateur est Nicolas Demorand. Celui-ci nous raconte ce long cheminement pour mettre des mots sur son état psychique, ce long cheminement pour accepter et vivre avec ce que l'on nommera chez lui la bipolarité. Il parle de son parcours, les traitements, les consultations avec les professionnels et toutes les questions sans réponse. Ce livre a une centaine de pages, il se lit bien et Nicolas Demorand se livre entièrement. Vous en saurez plus sur la bipolarité dans la suite de notre émission. Voilà, voilà, ma rubrique est terminée. Bonne lecture.
Merci Sophie, c'est maintenant l'heure de court-circuit.
Court-circuit, le circuit court des artistes du Vendôme.
J'écris pour faire plaisir à beaucoup, pour m'emmerder le besoin, ça, d'accord, mais c'est la même chose, c'est ce que j'aimerais mieux à faire.
Court-circuit.
Alors pour ma rubrique court-circuit qui vous présente les acteurs culturels et artistiques du Vendômois, j'avais envie qu'on parle du Loup Perché, qui vient d'ailleurs de fêter son anniversaire. On peut y proposer des trucs et moi j'avoue que en fait à chaque fois que j'y vais, je me retrouve à discuter avec des gens que je connais pas. Donc c'est plutôt cool, c'est un lieu pas mal pour rencontrer des gens. Et puis c'est un lieu qui commence à devenir assez important dans le Vendômois, les gens connaissent vraiment bien après 2 ans d'existence. Donc on reçoit aujourd'hui Mathilde qui gère le Loup Perché avec Benoît. Salut Mathilde.
Salut Émilie, salut le GEM.
Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est venue l'idée du Loup Perché ? Comment est né le concept ?
L'idée du Loup Perché, c'est venu suite à une reconversion professionnelle. Je ne travaillais pas du tout dans ce domaine-là et Benoît non plus. Et puis, on s'est dit qu'on voulait faire autre chose et qu'on voulait surtout rencontrer des gens. On a eu une petite expérience associative. On avait créé une association où on faisait déjà pas mal d'ateliers, de concerts et de trucs en tout genre. Et on s'est dit qu'on allait pouvoir essayer d'en faire un métier. Et donc, on s'est dit, un bar, c'est le plus adapté pour créer du lien, créer des animations et créer des soirées. Le but de départ, c'était pas vraiment le bar, c'était vraiment faire des animations, faire des choses, faire des trucs, faire des ateliers, voilà, et faire tout ce qu'on fait.
Ok, c'est que les gens se rencontrent.
Ouais, c'est ça.
Okay.
Que les gens se rencontrent et de faire un lieu où tout le monde peut venir, justement, venir comme il est et qu'il y ait le maximum de diversité possible. On est super content quand on voit plein de gens différents, avec des histoires différentes et qui amènent des choses différentes aussi. Donc, c'est super.
Ouais. Et du coup, comment vous êtes senti à votre arrivée dans le tissu vendômois ? Est-ce que vous avez été bien accueilli ? Est-ce que c'est parti J'ai l'impression que c'est bien parti tout de suite.
Ouais, on était super bien accueillis, tant par les commerçants du faubourg que par les autres cafetiers et acteurs du milieu de l'hôtellerie restauration café. Donc on a senti qu'on avait vraiment notre place et même nos voisins nous ont vraiment encouragés à nous installer et en plus particulièrement dans le faubourg qui était justement en train d'être rénové. Donc c'était aussi l'occasion d'être dans ce nouveau quartier.
Ouais. Moi, je sais qu'il y a un truc qui me plaît beaucoup quand je suis, par exemple, vos pages Facebook, enfin sur les réseaux, c'est que vous soutenez vachement les autres commerces. Enfin, on voit que c'est vraiment, enfin, vous vous portez les uns les autres, et je trouve ça vraiment chouette.
Ouais, oui, déjà parce qu'on a reçu justement un bon accueil et que tout le monde a compris que on était tous ensemble dans le même bateau, c'est-à-dire que plus il y aura de café, plus il y aura de vie, plus il y aura d'activité, surtout sur ce nouveau faubourg, plus les gens viendront, plus les gens sortiront. Donc on est ravis quand il y a des nouveaux cafés qui s'ouvrent. Et c'est pas du tout de la concurrence, puisque chacun a son propre, sa propre ligne, sa propre clientèle, son propre style. Du coup, chacun fait des choses différentes. Et au contraire, plus il y aura diversité et dans une ville, plus ça sera attractif, plus il y aura même des habitants qui viendront habiter, des entreprises qui viendront s'implanter. C'est comme ça aussi qu'on crée l'attractivité d'un territoire. C'est vraiment avec toute une diversité d'acteurs. Donc on est content et justement de soutenir aussi tous les acteurs autour de nous.
Et du coup, là, vous venez de fêter vos 2 ans. Que tu as des événements marquants ? Alors, bon, j'imagine que l'anniversaire, c'en est un. Mais est-ce qu'il y a d'autres événements marquants dans l'histoire du Loup Perché ?
Oui, l'anniversaire, c'était vraiment une très, très belle soirée, une très, très belle fête avec une centaine de personnes, un super groupe de musique et une ambiance vraiment hyper bienveillante, plein d'amour, plein de bonnes ondes et plein de soutien. Donc nous, on a vraiment beaucoup aimé cette soirée. Donc c'est peut-être la plus marquante des 2 ans. Mais après, un événement marquant, c'est difficile à dire parce qu'on a reçu tellement de chouettes groupes. Je pense tout de suite au groupe de musique parce que ça met une ambiance tout de suite un peu de folie. Quoi. Quand on pense à Poulidor, Grumpy O'Sheep, Taras Folk, les Gypsy Jukebox, c'est un peu ceux qui me viennent en tête. Monk a fait un spectacle incroyable. Mais aussi toutes les plus petites animations qu'on fait. C'est toujours des grands moments de partage, d'émotions. Je me rappelle, on a fait un atelier origami. C'était hyper chouette parce que c'était très multigénérationnel. On a fait un concours de Lego qu'on va refaire d'ailleurs prochainement. Nos concours de puzzle, enfin tous ces petits finalement ateliers et moments de retrouvailles sont aussi marquants. Donc en fait, c'est difficile à dire un événement marquant. Est-ce qu'il y a les petits, les grands et les petits moments. Et même quand on n'a rien finalement de prévu au programme, c'est aussi des chouettes moments parce qu'on peut discuter plus tranquillement avec les gens. Les gens peuvent aussi discuter des fois plus calmement entre eux. Donc, et on fait des rencontres aussi plus profondes aussi parfois que quand on est un peu juste dans le rush derrière le bar. On a aussi moins le temps de discuter. Donc on aime bien aussi les petits moments calmes pour pouvoir discuter avec les gens et mieux connaître les gens. Donc on est content aussi.
Ouais. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Loup-Perché, il y a des ateliers, des concerts, etc. Mais il y a aussi des jeux. Il y a aussi des puzzles en accès libre. Il y a aussi un système d'échange de puzzles qu'on utilise aussi ici, d'ailleurs. Plein de petits outils et de petits trucs qui sont mis en place, des post-it, des cartes postales, des petits casse-têtes. Enfin, il y a plein de petits trucs qui font que, finalement, même juste en venant prendre un verre, vous vous retrouvez à discuter avec des gens qui sont à la table d'à côté ou à partager une table. Enfin, voilà.
Ouais. Oui, oui, ça, c'était vraiment le concept de base. Enfin, l'idée de base, c'était vraiment aussi de faire venir des personnes qui viennent pas forcément au café. Et moi-même, en tant que cliente d'un café, j'irai pas forcément toute seule dans un café. Je vois pas trop quoi y faire. Donc, on a pris soin de faire en sorte que des gens qui soient seuls dans leur vie ou qui soient seuls à ce moment-là parce qu'ils sont de passage ou parce qu'ils vont faire des courses, voilà, on peut venir seul. Il y a un puzzle participatif, comme tu disais, un tricot, il y a des mots croisés, on peut se poser avec un livre. Et puis donc on travaille aussi avec des acteurs maintenant de la santé qui travaillent sur l'isolement social. Donc on est super content aussi d'être repéré pour être un lieu de lutte contre l'isolement social. Et puis on peut venir aussi entre amis, en famille et faire des jeux. Il y a toute une ludothèque à disposition, plein de jeux à disposition. Et puis effectivement, quand on vient seul, en général, on se fait plein d'amis parce qu'à l'occasion aussi de nos ateliers, quand les gens viennent seuls, on les met avec une autre équipe, avec un autre binôme. Donc, généralement, beaucoup d'amitiés se sont liées, même quelques couples qui se sont formés. Donc, on est très contents d'être vraiment acteurs de la vie sociale au sens noble du terme, quoi.
Est-ce qu'il y a des projets, justement, pour le Loup-Perché à venir ?
Alors, des idées, nous, on n'en manque pas. Hein. J'en ai vraiment à l'appel, mais le problème, c'est les jours qui manquent dans le mois. Il n'y a pas assez de jours dans le mois, il n'y a pas assez d'heures dans les journées. Donc, plein de projets. Et puis aussi, tous les projets qui viennent à nous, en fait, que nous, on n'avait pas forcément imaginé, mais qu'il y a des envies aussi qui des fois se manifestent et les gens viennent à nous en nous disant « Tiens, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça. » Là, par exemple, tout récemment, il y a, on parlait des artistes du Vendômois. Il y a un jeune homme qui nous a demandé de faire un espèce de showcase, un petit concert. Et je dis « Ah bah oui, en fait, j'y avais pas pensé, mais ça pourrait faire l'objet de première partie de nos concerts pour justement mettre en avant des amateurs qui se lanceraient un peu. » Et donc, ça peut être un projet. Pour l'instant, on va essayer une première partie. Justement, il va faire sa première partie pour le prochain concert le 8 novembre. Mais pourquoi pas un nouveau potentiel de première partie de concert. Voilà, okay. C'est un projet. Puis après, il y a... Cité, je spoil pas, il faudra suivre les actualités du Loup-Perché, mais oui, après il y a des choses qui sont plus ou moins faciles à réaliser, plus ou moins longues à réaliser. Il y a des idées qui peuvent se mettre très vite en place, il suffit juste de trouver un créneau dans l'agenda, mais il y a des choses qui nécessitent de mobiliser d'autres acteurs, de faire des partenariats, etc. Donc là, ça dépend pas forcément que de moi aussi dans le débouché du projet. Donc voilà, j'ai plein d'idées et surtout, il y a plein de demandes aussi. On voit qu'il y a aussi plein de besoins qui ne sont pas qui sont pas remplis sur le Vendômois, plein d'attentes. Donc, on aurait envie aussi de remplir certaines de ces attentes, en tout cas, qui seraient en lien avec ce qu'on fait déjà, quoi. Donc voilà, on va voir. Okay. Tout est possible pour 2026.
Okay. Et où est-ce qu'on peut trouver l'actu du Loup-Perché ?
Eh bien, l'actu soit sur le flyer papier, qui est disponible même quand on est fermé, puisqu'il est dehors sur la vitrine, ou vous pouvez venir le chercher directement au bar, soit si vous êtes plutôt numérisé, eh bien, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et puis notre site internet lou-perche.com.
Ok, merci beaucoup Mathilde.
Merci Émilie, merci le GEM.
Et du coup, comme vous le savez, on vous fait écouter des artistes du Vendômois et j'ai découvert récemment une artiste que j'aime beaucoup et que je ne connaissais pas et qui est vendômoise et qui est du coup plutôt sur tour maintenant. Elle s'appelle Najwa Belhadj et on écoute Si Jamais.
Si jamais tu voulais me retrouver sur la berge, j'y serai demain. Je t'attendrai sur l'herbe en repensant tous mes rêves. J'y serai demain. Je serai patiente, pourrai m'étendre et ressentir le mouvement de l'eau qui danse. Je sens qu'elle vibre, mais ne sais pas encore comment. Si jamais tu voulais m'offrir un verre, j'y serais demain. J'étendrai tout mon attirail d'assiettes et de couverts.
Et on attaque maintenant le thème de l'émission, la bipolarité.
La santé mentale n'est pas un gros mot. La santé mentale n'est pas un gros mot.
Pour une raison technique, les questions que Nora a répondues, en fait, seront rajoutées au montage. Merci à vous tous de votre compréhension.
Je m'appelle Nora, je suis adhérent de Bipôle 31 et secrétaire à son conseil d'administration. J'ai 52 ans et j'ai un trouble bipolaire de type 1. Bipôle 31 est une association et un GEM, donc c'est l'acronyme de groupe d'entraide mutuelle, qui, sur la base de la paire aidance, lutte contre l'isolement des personnes en situation de handicap psychique. C'est sa première mission, et ce, quel que soit le trouble psychique. Nous proposons à nos adhérents un accueil journalier tous les après-midi de 14h à 18h, ainsi que certains week-ends. Nous proposons aussi des ateliers et activités fixes chaque jour, mais nos adhérents n'ont aucune obligation. Ils peuvent venir juste pour profiter de l'accueil, échanger avec les autres adhérents ou même juste profiter du lieu sans parler, s'ils n'en ont pas envie. Bien sûr, ils peuvent participer aux ateliers proposés s'ils le souhaitent, ateliers qui sont des prétextes pour le faire ensemble et qui sont gratuits. En deuxième mission, l'association se veut être un vecteur d'information pour ses adhérents ainsi que pour le grand public avec son cycle de conférences mensuelles sur la bipolarité, aussi sur d'autres troubles psychiques comme le trouble borderline et différentes thématiques en lien avec des troubles psychiques comme les troubles du sommeil notamment. L'information représente pour nous un moyen de faire reculer la stigmatisation. Comme en général, nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas, il est important de faire reculer l'ignorance par la connaissance. Il est à noter que nous ne prodiguons aucun soin médical au sein de notre association, qui est un lieu de vie, d'échange humain et de sociabilisation. D'ailleurs, nous avons la volonté de proposer à nos adhérents un lieu ouvert toute l'année, car la maladie ne prend pas de vacances. Et ce lieu, nous le voulons sécur. C'est pourquoi nous n'acceptons que des personnes stables et autonomes. Je précise qu'une personne déprimée ou qui n'a pas le moral est vivement encouragée à venir chercher la solidarité et la chaleur humaine au sein de notre GEM. Il est fait pour ça. Ce qui est différent de personnes en crise qui ont besoin, eux, de soins médicaux ou de personnes sous influence d'intoxicants qui peuvent troubler l'équilibre des autres personnes dans l'association. Certains de nos adhérents parlent de notre GEM comme d'une oasis ou d'une chapelle. C'est un endroit où règne la bienveillance et l'empathie, un endroit où on peut tomber le masque. On n'est pas obligé de dire « ça va » quand ça ne va pas. C'est ici que prend tout son sens l'appellation du groupe d'entraide mutuelle fondé sur la paire aidance. À propos de nos ateliers, nous proposons des ateliers et aussi des sorties et des séjours. Les ateliers fonctionnent beaucoup avec notre animatrice, plastique, notamment la terre, le chant accompagné de la guitare, la confection d'un repas pris ensemble, la confection d'un goûter pris ensemble et la confection d'un repas à emporter. Mais en plus de ces ateliers animé par notre salariée animatrice, on a aussi une intervenante extérieure qui propose un atelier aquarelle une fois par semaine. Et d'autres ateliers sont proposés par les adhérents eux-mêmes. Une fois ayant l'aval du CA, peuvent animer les ateliers qu'ils ont proposés ou les sorties ou les séjours qu'ils ont proposés. Et nous sommes beaucoup dans une politique de faire pour l'adhérent et par l'adhérent. Ce qui permet à nos adhérents de prendre confiance en eux, de participer, de se sentir dans un groupe dynamique. Et tout ça, bien, c'est très positif. C'est ainsi que moi-même, je propose un atelier d'initiation au poker et un atelier de tissage de bracelets brésiliens. À propos des caractéristiques de nos adhérents, le nombre de nos adhérents se situe environ à 150. Je dirais que le premier mot qui me vient en tête, c'est la diversité. Cette diversité, elle se retrouve autant dans les âges, hein, nous avons des adhérents qui ont 19-20 ans jusqu'à plus de 60 ans. Diversité des troubles psychiques, même si majoritairement la bipolarité est le trouble qu'on retrouve chez nos adhérents, il y a tous les autres troubles, l'anxiété, la dépression, le trouble borderline, la schizophrénie. Et au niveau du sexe, c'est partagé équitablement. Cette diversité est une raison aussi de dynamisme ce mélange est tout à fait positif pour tout le monde. J'aimerais rajouter quelque chose, c'est que j'ai un petit message à transmettre à toutes les personnes souffrant d'un trouble psychique et qui se sentent seules. N'hésitez pas à sortir de chez vous, même si ça peut être très difficile. Comme on dit, si tu veux t'en sortir, sors. Alors, allez au dehors, essayez de pousser la porte d'un gène, car cela peut changer votre vie. En tout cas, moi, ça a changé la mienne et j'ai fini de me stabiliser en étant adhérent à Bipôle 31 et en profitant de tous les bienfaits qu'il offre. Voilà. Merci beaucoup.
Et on reçoit maintenant Germain Gilliard, psychologue à Alvin.
Bonjour Germain, bienvenue à Postatet. Alors, qu'est-ce que la bipolarité ?
Alors, bonjour Laurent, bonjour à l'équipe.
Bonjour.
La bipolarité, c'est un trouble de l'humeur. C'est une maladie qui voit la personne qui en souffre alterner entre des phases maniaques et des phases dépressives. Donc, les phases dépressives, ça parle à peu près à tout le monde. C'est des moments où l'humeur est très triste. On peut avoir du mal à se lever, du mal à aller au travail. Les phases maniaques, c'est un petit peu plus compliqué. Disons que maniaque, magne en grec, c'est ce qui vient de magnifique. Charlemagne ou un magnum de champagne. Donc magne, ça veut dire tout puissant. Une phase maniaque, c'est une phase dans laquelle la personne va se sentir très forte, un peu invulnérable, un peu impulsive, voire même agressive. Ça peut arriver. Et donc la personne qui souffre de bipolarité ou de cyclothymie, ça s'appelait comme ça avant, va voir son humeur alterner entre des périodes stables, des périodes où elle va être très, très, très agitée, et ensuite des périodes où elle va être très dépressive. Et ça va revenir régulièrement comme ça, à des fréquences propres à chacun.
D'accord. Plus ou moins forte ou toujours ?
Plus ou moins forte.
Plus ou moins forte, d'accord. Peut-on être bipolaire à n'importe quel âge ?
Alors, normalement, l'âge d'entrée dans la bipolarité, c'est la fin de l'adolescence ou le jeune adulte. Mais après, il y a des exceptions où on peut avoir des débuts vers 12 ans, et aussi des entrées vers 60 ans. Ça, c'est une moyenne, quoi.
D'accord. Quels sont les signes déclencheurs de la bipolarité ?
Alors, signes déclencheurs, ça veut dire ?
Comment ça se produit, comment ça arrive envers une personne, les signes, les choses comme ça.
Alors, comment on repère la
bipolarité ? Oui, voilà, comment on peut repérer la bipolarité envers une personne ?
Ben justement, on va avoir une absence de régularité dans l'humeur de la personne. C'est-à-dire qu'à certains moments, elle va être vraiment très triste et quelques temps plus tard, très, très agitée. Donc, ça frappe un peu par le fait que la personne ne soit pas constante. Voilà, ça, c'est un signe. Et puis ensuite, on va essayer de repérer. Donc, les médecins ou les psychologues vont essayer de quantifier dans le temps à quel rythme et comment ça revient.
D'accord. Peut-on avoir une vie normale de tous les jours quand on est bipolaire, c'est-à-dire travailler, être en couple, avoir des enfants, etc. Ou est-ce que c'est difficile ?
Alors là encore, ça va dépendre de l'intensité de cette bipolarité. C'est vrai que les personnes qui ne sont pas forcément accompagnées ou qui n'ont pas de traitement de stabilisateur de l'humeur vont beaucoup souffrir et beaucoup être en difficulté pour avoir une vie ordinaire. Après, avec un accompagnement, on va observer que ces phases-là peuvent réduire, être beaucoup moins hautes dans les phases maniaques, voire presque plus excitées. On parlera d'hypomanie, c'est juste en dessous la manie, donc ordinaire si vous voulez, et des phases dépressives un petit peu moins intenses, parce que la dépression, elle est aussi accompagnée en thérapie notamment, ce qui permet à la personne d'être un peu plus consciente de ce qui lui arrive. Et au moment où, par exemple, dans une phase dépressive, elle se sent complètement nulle, elle sait que c'est un temps et elle sait se raccrocher à l'identité d'elle-même qu'elle a dans les phases où elle n'est pas dépressive. Donc elle sait qu'elle traverse une période où elle se sent nulle, mais que ça va passer. Donc ça, ça peut permettre à la personne d'avoir une vie à peu près ordinaire. Voilà, ça va dépendre vraiment de la difficulté ou l'intensité avec laquelle elle est touchée par ces fluctuations.
Est-ce que ça peut changer la vie d'une personne quand on lui annonce qu'elle est bipolaire ?
Ah bah oui, en effet, parce que quand on a enfin un diagnostic sur quelque chose qu'on ne comprend pas de soi-même, ça peut être apaisant, ça peut être rassurant de savoir qu'il y a des traitements, il y a des accompagnements spécifiques, alors que jusque-là, on pourrait penser que cette personne-là, elle est particulière et on se l'explique pas, quoi. On pourrait dire, bah voilà, elle a un sale caractère, elle est lunatique, alors qu'en fait, non, elle est vraiment atteinte d'une affection qui la dépasse.
D'accord.
Donc ça peut aider, en effet. Ça peut aider d'avoir ce diagnostic.
Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ou...
Est-ce que vous voulez que je parle de comment on peut accompagner la bipolarité en thérapie ?
Oui, ça peut être intéressant.
Ouais.
Oui.
Alors du coup, on repère avec les patients qui sont sur un travail de psychothérapie les déclencheurs. C'est-à-dire que quand quelque chose me touche et que je me sens profondément attristé, on va regarder avec le patient si quelque chose a déclenché ça. Dans la bipolarité, dans un premier temps, on ne s'aperçoit pas de déclencheur. C'est-à-dire que l'humeur va descendre sans raison apparente et elle va monter sans autre raison apparente. Au fil du travail, au fil du temps où on aide la personne à identifier ce qui se passe en elle, à repérer ce que lui fait l'extérieur, les choses qui la blessent, qui la touchent, on va s'apercevoir que les phases maniaques, donc où la personne va vraiment être très, très agitée, elles vont arriver au moment où elle commence à pressentir la phase dépressive qui arrive. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer que la phase maniaque, elle est défensive. Elle permet à la personne de ne pas tomber dans quelque chose de dépressif. Donc s'agiter et monter en intensité, c'est une manière de se défendre contre la dépression qui arrive. Du coup, la phase maniaque va conduire à un épuisement, et une fois que la personne, le sujet est complètement épuisé, là, il va tomber encore plus profondément dans sa dépression. Quand on commence à repérer ces choses-là, on va s'apercevoir qu'on va accueillir et essayer de soigner la partie dépressive de la personne, à savoir pourquoi elle souffre, de quoi elle souffre, et comment ou faire avec ça, ou
on chercher la cause.
La cause, la oui, si on veut, c'est pas toujours une cause, ça peut être une manière d'être, si vous voulez. Mm. C'est pas toujours un déclencheur extérieur. Mm. Mais en tout cas, appréhender les choses qui nous rendent tristes permet de ne plus avoir à s'en défendre en s'agitant. Un peu comme un poisson qui sort de l'eau, quoi. C'est-à-dire qu'on va se débattre dans tous les sens. Finalement, on n'évite plus la partie dépressive et on n'a plus besoin des phases maniaques. Ce qui fait qu'on observe finalement, avec une thérapie qui fonctionne, quelque chose qui va permettre au patient d'être beaucoup plus conscient de lui et de repérer beaucoup plus facilement ce qui se passe en lui. Et donc, il ne va plus avoir le sentiment d'être traversé par des flux maniaques ou des flux dépressifs, mais réaliser que la vie qu'il mène va impacter aussi ces phases-là.
Est-ce qu'il faut obligatoirement un traitement ou ça peut se soigner sans traitement ?
Alors, la question du traitement, je la maîtrise mal, c'est plutôt l'affaire des psychiatres.
Les psychiatres, oui.
Mais c'est vrai que parfois, l'intensité thymique, donc l'intensité de l'humeur est telle que faire une thérapie, ce n'est pas possible.
Un traitement s'impose peut-être.
Alors, le traitement peut être nécessaire quand ça devient trop compliqué à supporter, mm-hmm. parce que c'est une vraie souffrance, c'est vraiment quelque chose de compliqué à vivre. Hein. Mm-hmm. Et puis, il y a aussi la réaction à ce qui peut se jouer en thérapie, c'est-à-dire que utiliser certains mots ou aller chercher certains concepts, si l'humeur n'est pas encore régulée,
stabilisée,
entre guillemets, apaisée, ça peut déclencher des réactions très fortes qui empêchent après le dialogue.
D'accord.
Donc, ça va dépendre aussi de comment la personne peut gérer ce qui se passe en elle.
Ok.
En fait, moi, j'ai envie de rajouter que, tu sais, la thérapie, en fait, parler, c'est se libérer quelque part.
C'est vrai.
Tu vois ? Mmh. Voilà. Tu vois, comme dit, quand tu viens de comprendre pourquoi tu souffres, eh ben, tu sens arriver la chose, en fait. Voilà. Puis plein d'autres choses, encore, même si c'est super long. Hein, je veux dire, la thérapie, elle peut être super longue. Mais t'avances. Même si c'est douloureux aussi quand tu te rends compte de choses, en fait, que t'avais pas compris et que tu t'aperçois, en fait, que tu comprends maintenant pourquoi tu souffres. Voilà.
Mmh. Ça peut permettre aussi de se sentir exister. On n'est pas complètement enseveli sous une vague d'émotions qui nous débordent. Voilà, on garde quelque chose de son identité, de sa conscience de soi. Et c'est peut-être un peu moins douloureux aussi d'être conscient de ce qui se passe au moment où ça se passe. Je ne sais pas si c'est de ça dont vous parlez.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Ouais.
Bon, bien, merci beaucoup Germain et puis bonne continuation.
Merci Laurent, merci à tous.
Merci.
Merci beaucoup Germain, et c'est ainsi que s'achève l'émission numéro 8 de Pose ta tête sur la bipolarité. On espère que vous avez appris des choses, que vous vous sentez maintenant assez à l'aise pour en parler autour de vous si vous en ressentez le besoin. On vous rappelle que l'émission est diffusée sur Studio Zef tous les lundis à 13h, fréquence 91.7 à Vendôme et 91.1 à Blois, et que vous pouvez retrouver toutes les émissions en podcast sur le site de Studio Zef. On vous dit au revoir et surtout n'oubliez pas de poser votre tête. Salut.
Pose ta tête,
l'émission qui laisse passer la lumière.
Pose ta tête, c'est l'émission.
Ta tête, laisse passer la lumière.
Qui laisse passer la lumière.
Pose ta tête, c'est l'émission qui laisse passer la lumière.